France Culture.
Les midis de culture, ça repart. Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie. À 13h, comme promis, on discutera avec le botaniste Francis Allais. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte de magie, Marie, mais on peut désormais en voir beaucoup et en voir partout et aussi dans les théâtres subventionnés. Le spectacle de magie se diversifie, que ce soit dans les techniques ou dans l'esthétique. Et il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. La preuve en est à la Villette avec la 8e édition de Magic Whip, événement qui se veut le carrefour mondial de toutes les magies, et ce jusqu'au 22 mars prochain. Alors comment la magie est aujourd'hui devenue une discipline à part entière du spectacle vivant? C'est le dossier du Point Culture du jour. Thierry Collet, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes magicien, illusionniste, vous travaillez depuis plus de 25 ans au renouvellement des codes de l'écriture et de l'esthétique de la prestidigitation. Vos spectacles tournent beaucoup en France, et notamment dans les scènes nationales. Est-ce que vous avez l'impression que la magie parvient aujourd'hui à être considérée comme du spectacle vivant au même titre que le théâtre, la danse ou le cirque ?
Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la magie a fait sa place sur les plateaux de théâtre, qu'ils soient publics ou privés, à la télévision, au cinéma. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une espèce de vague Harry Potter qui a un peu mis un coup de projecteur, mais je dirais même qu'on est dans une sorte d'âge d'or aujourd'hui. Les scènes nationales et autres en programme aussi, à Paris, en province, vraiment, je trouve qu'il y en a partout. Je dis ainsi, je pars un peu de mon histoire personnelle. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Choisy-le-Roi, et dans les années 70, il y a un théâtre Paul-Éluard, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'est construit. Et donc, moi, adolescent, j'avais un pied, je dirais, dans le monde de la prestidigitation, un peu traditionnel, et puis un autre pied au théâtre Paul-Éluard, où mes parents m'ont emmené voir des spectacles, dont j'ai vu les grands spectacles de Philippe Gentil, qui était un marionnettiste, qui faisait du théâtre d'objets, qui convoquait beaucoup, beaucoup la question de l'illusion et des faux-semblants dans ses spectacles. Donc j'ai eu très tôt envie d'emmener ma magie dans ces lieux de spectacle où j'avais des chocs esthétiques.
Et le retour du public, c'est un public qui s'élargit. Quand on pense magie, on pense enfant, certainement à tort. D'ailleurs, comme pour le théâtre de marionnettes, on a tendance à penser que c'est pour les enfants, alors que c'est vraiment du théâtre à destination de tous les publics. Est-ce que vous avez l'impression que dans les salles aussi, le public se diversifie ?
Bon, il y a une pédagogie à faire, hein. Je pense que c'est comme pour le cirque ou la marionnette, où il y a des idées reçues. Mais en même temps, c'est des disciplines qui attirent des gens qui ont pu en passer des arts populaires, hein, des gens qui ont pu en voir à la télé, qui en ont vu quand ils étaient enfants. Donc, il y a une entrée qui est peut-être plus facile, qui demande un peu moins de présupposés culturels, de rapport au texte, qui sont moins intimidantes. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elles intéressent l'institution aujourd'hui, hein, qui a toujours à cœur de renouveler les publics. Et la magie, vraiment, elle vient à point nommé. Mais il y a une petite éducation à faire, de dire aux gens que c'est pas que pour les enfants. C'est vrai qu'ils ont tendance à amener leurs enfants, parce que il y a un peu une image de la magie merveilleuse. Oui, c'est un art un peu enfantin. Alors que quand même, ces dernières années, ça a beaucoup évolué.
Vous, notamment, vous avez intégré très vite l'intelligence artificielle, par exemple, dans vos spectacles. Comment pensez-vous aujourd'hui les liens entre magie et nouvelles technologies ?
Moi, je suis toujours intéressé aux endroits dans notre monde actuel où il y avait du secret, il y avait de l'inconnu, il y avait une forme de magie quelque part, il y avait des choses qui étaient cachées. Et aujourd'hui, notre dévotion, enfin, notre attache aux technologies numériques, il y a quelque chose de l'idolâtrie aussi, hein. C'est quand même des nouvelles divinités qui sont en même temps des oracles, qui nous prennent en charge, qui nous augmentent de pouvoir magique, de choses qu'on pouvait absolument pas faire avant, mais qui en même temps nous tiennent un peu en laisse, hein. C'est en même temps un peu notre cordon ombilical. Donc je trouvais qu'il y avait un endroit un peu de caché. On ne sait pas très bien les limites de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas encore, de ce qu'on croit et de ce qu'on sait. On est proche de la science-fiction avec ces nouveaux outils. Donc pour moi, il y avait un territoire de magie à explorer.
Alors vous dites souvent que votre magie veut activer l'esprit critique du public. Comment vous vous y prenez ?
Alors, c'est pas simple, parce que la magie, elle n'a pas été du tout inventée pour ça. La magie, elle a été inventée pour justement plutôt exercer le pouvoir et l'autorité.
Hein, oui, voir la manipulation.
Complètement. Il y a quelqu'un qui sait face à des gens qui savent pas comment ça marche. Et donc, de ce savoir naît évidemment du pouvoir. Et moi, ça m'intéressait sans forcément toujours dévoiler les trucs, mais que le public puisse identifier des mécanismes, plutôt ce qui se passe dans son propre cerveau, pour être peut-être un petit peu plus attentif aux illusions ou aux faux-semblants ou aux reflets enfin, qu'il y a dans le monde contemporain. Alors, est-ce que ingérer un peu de poison, c'est aussi fabriquer des anticorps, c'est la vaccination. Donc, fréquenter les illusions et un peu les déconstruire, c'est aussi, être capable de les regarder dans le monde réel.
Quelle grande tendance vous observez dans la nouvelle génération de magiciens dans le pavillon à la Villette en ce moment? Il y a plusieurs types de magiciens qui se produisent. Est-ce qu'il y a des thématiques, des techniques ou des préoccupations nouvelles dans cette nouvelle génération?
Ouais, il y a des magiciens et des magiciennes, et on y est assez attentif à la question de la diversité. Je trouve que c'est vraiment une discipline qui était très en retard par rapport au théâtre, à la danse ou au cirque.
Oui, qui était très masculine.
Ah ouais, qui est toujours très majoritairement masculine. Donc, sans faire des thèses, essayer de savoir pourquoi, juste de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour changer, déjà en programmer plus, accueillir plus de femmes magiciennes en résidence. Et ça, on avance vraiment là-dessus. On a une saison qui est paritaire, par exemple, là, et on a une Magic Night, une soirée, les 21-22 mars, qui est exclusivement féminine. Ça, c'est une tendance qu'on a pu observer. Nous, il y a vraiment, dans les courants de magie nouvelle ou contemporaine, enfin d'aujourd'hui, les jongleurs, par exemple, qui s'en sont emparés. C'est le cas d'Étienne Saglio, de Yann Frisch, qu'on connaît bien, mais d'autres aussi. Il y a vraiment la famille du tête d'objet, avec des gens comme Chloé Cassagne, qu'on a accueilli en résidence, ou des gens qui viennent plutôt du théâtre. Et là, plus que des thématiques, je dirais, c'est des façons de travailler, d'abord, des rapports au public, qui bouleversent aussi et qui font évoluer les codes et la dramaturgie de la magie.
Donc, rendez-vous à la Villette, c'est jusqu'au 22 mars pour rencontrer tous ces magiciens-là.
Et les filles aussi.
Et les filles aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Thierry Collet.
Merci, Marie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, les candidatures sont ouvertes pour la prochaine présidence de France Télévisions.
Oui, l'ARCOM, régulateur de l'audiovisuel, a lancé mardi un appel à candidature. Parmi les critères de sélection se trouve la volonté d'amélioration des coopérations avec les autres sociétés du service public de l'audiovisuel ou encore leur projection pour la soutenabilité financière de France Télévisions. Mais la holding, le projet de réforme de l'audiovisuel défendu par Rachida Dati, pourrait rebattre toutes les cartes à la tête des médias publics.
Plusieurs pays connaissent une hausse encourageante de la vente de livres.
Oui, dévoilée lors de l'ouverture de la foire du livre de Londres, les chiffres des marchés mondiaux du livre pour 2024 sont encourageants dans plusieurs régions du monde. En Inde, par exemple, les ventes de fiction ont augmenté de 30%, au Brésil de 16% et en Espagne de 12%. Une expansion attribuée à l'influence positive de la communauté BookTok sur TikTok est tirée vers le haut par la romance et la fantasy. Alors la tendance est moins bonne pour la non-fiction, qui progresse timidement et dans seulement 6 pays. Et quelques nations comme la France, l'Irlande ou le Royaume-Uni ont quant à elles enregistré une légère baisse des ventes l'année passée.
Littérature toujours aux Antilles, les librairies généralistes se raréfient.
En Martinique et en Guadeloupe, on ne trouve désormais plus que 2 librairies généralistes dans chaque île qui cohabitent avec les anciennes Fnac et Cultura. À Saint-Barthélemy, il en reste 1 de librairie indépendante et 2 à Saint-Martin. On l'explique par les difficultés similaires à l'Hexagone, achats sur Internet et e-book, mais aussi pour des raisons spécifiques. L'importation joue sur le coût du livre et la distance allonge les délais de livraison. Notons toutefois que les librairies religieuse et le livre créole continuent, eux, de prospérer aux Antilles.
Et pour finir, Marie, une éruption poétique commence aujourd'hui.
Oui, la 27e édition du Printemps des Poètes a pour thème cette année la poésie volcanique. Cette éruption de manifestations, près de 18 000 quand même, visant à se faire se rencontrer le grand public et la poésie jusqu'à la fin du mois. Alors ce pourra être par exemple une lecture musicale à la Sainte-Chapelle avec Ariane Ascaride, marraine de cette édition, ou encore une soirée poétique le 17 mars à La Criée, au Théâtre National de Marseille, autour de l'esprit de résistance, anthologie qui rassemble les textes de 118 auteurs. Dans les écoles, les bibliothèques, les hôpitaux ou les prisons, le Festival National doit projeter la poésie partout en France, et c'est la première édition, avec à la direction Linda Maria Barros, après l'intense contestation qu'avait suscité l'an dernier le parrainage de l'écrivain Sylvain Tesson. Et comme toujours, bien sûr, vous pourrez retrouver le programme complet du Printemps des Poètes sur le site du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles.
Bon week-end.
En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.